Dis-moi ton air de flûte préféré, je te dirai qui tu es. Bonjour à tous, chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui veut gagner la flûte à bec. Comme vous savez, chaque samedi, pendant l'été à 10h, je vous retrouve pour un grand quiz musical où on apprend en s'amusant, on s'amuse en apprenant. Enfin, l'idée est de faire des vacances apprenantes, quoi, ça on a compris, mais vraiment avec beaucoup de flûte en plus. Et à l'issue de chaque émission, eh bien, l'un de mes invités repartira avec une flûte. Flûte à bec qui nous est offerte aujourd'hui par la Fédération Française de Flûte, la FFF, qui nous fait bien ce beau cadeau de Flutio. Et je vous présente tout de suite les quatre invités qui vont jouer avec nous aujourd'hui. Elle est chanteuse, autrice, compositrice, interprète, musicienne, comédienne, autant dire qu'elle est un gros problème pour la SACEM. Elle a collaboré avec les plus grands de Philippe Catherine à Bertrand Belin en passant par Dominica et sans passer par Patrick Fiori, autant dire bravo à elle, c'est Barbara Carlotti. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Voilà, Barbara Carlotti, vous avez sorti l'année dernière un album intitulé Corse, île d'amour, sur votre amour de la Corse.
Sur mon amour de la chanson corse des années 60.
Voilà, donc non pas avec des chansons sur le Figatelli, la Copa, voilà.
Non, et mais il y a un peu quand même.
Il y a des chansons charcutières.
Il y a un peu
de chansons charcutières.
Il y a un peu de fromage dedans, ouais.
Vous êtes en tournée en ce moment en Corse justement pour
absolument
célébrer cet album. Vous jouerez le 16 novembre aussi à la Cigale à Paris et d'ailleurs le 21 août, voilà, j'ai noté le 27 août, vous êtes en Corse le 21 août à Pieve Providenza. Ouais. Je sais pas bien dit.
si c'est très bien, Pieve.
Donc j'ai mal dit. Et donc le 27 août à Propriane. Et c'est vrai que c'est l'avantage de faire un album sur la Corse quand même. C'est qu'on a plein de.
C'est d'aller à la plage très régulièrement. Corse, ouais. Hein,
c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas fait un album sur votre amour du Creusot. Alors je me tourne vers une autre de mes invités. Ses initiales, c'est MJ comme Michel Jonas ou Michael Jordan. Elle a révolutionné le monde de l'opéra et des rendez-vous au Pavillon Baltard. C'est Marianne James. Marianne James.
Hello.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Marianne James, vous serez du 18 au 31 décembre au théâtre de la Tour Eiffel pour les adieux de Tati Jambon. Donc je me dis clairement une émission sous le signe de la charcuterie aujourd'hui.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est que ce personnage de Tati Jambon ?
Oh, c'est la Tati adorée. Elle n'a aucune retenue sur les sujets abordés avec les enfants et les grands.
Elle chante aussi, j'imagine.
Elle chante, c'est funky, ouais. Elle rend hommage souvent à James Brown plutôt qu'à l'âne trop.
C'est une bonne chose parce que l'intro trop,
n'en peut plus.
Ça va bien deux minutes. C'est une légende du journalisme musical. C'est lui qui a amené la première émission d'actualité de rap à la télé avec Rapline. Il a interviewé tellement de rappeurs dans sa vie que ses costumes, ils sentent un peu l'herbe. C'est vrai, rien que pour ça, bah, moi je l'aime bien. Il vient aussi de sortir trois compilations chez Vagram Music dont il signe le track listing. C'est lui qui a décidé des morceaux dessus. Les compilations s'appellent Soul Diggers, Funk Diggers et Hip Hop Diggers. C'est Olivier Cachin qui est avec nous.
Yay.
Merci Olivier Cachin.
Bah merci de l'invitation, comme disait Tapi.
Est-ce qu'on entend beaucoup de flûte dans ces compilations ?
C'est assez réservé, mais en tendant l'oreille, tu en entendras, oui.
On en entendra quand même. Enfin, il ne joue pas de flûte, mais il est très très rigolo et bon, je marquais assez gentil, ça dépend un peu des jours. C'est Aymeric Lompré qui est avec nous. Aymeric Lompré. C'est une grande joie de vous avoir, Aymeric Lompré. Les auditeurs Nater vous connaissent très très bien. D'ailleurs, j'ai pas l'habitude de vous dire vous, mais je vais le faire quand même.
Oh, c'est chic.
Le 5 août, vous jouerez à Belle-Île-en-Mer.
Oui, avec les Hernadettes.
Avec les Hernadettes. Le 21 août, à Jeanval, en Belgique.
Oui, avec les Hernadettes.
Et le 29 août, à Vaux-en-Velin, au festival Woodstower.
Oui.
C'est un peu le Woodstock de Vaux-en-Velin.
Je ne connais pas ce festival, mais
vous
c'est un festival de musique.
C'est un festival de musique, ok. Ouais. Je rappelle donc les règles de Qui veut gagner la flûte à bec. Je vous pose tout un tas de petites devinettes liées à l'histoire de la musique pour que nos auditeurs puissent se cultiver en s'amusant ou s'amuser en se cultivant. Vous êtes tous les quatre équipés d'un buzzer qui émet un son différent. Barbara, votre buzzer, il fait ce son-là. Marianne. Aymeric. Et Olivier Cachin. Voilà, autant dire quoi, c'est très facile d'identifier le qui a buzzé. Je rappelle que toutes les mauvaises réponses sont autorisées. Je rappelle aussi que vous pouvez utiliser le buzzer à n'importe quel moment. Enfin, disons, il n'y a pas de vraie règle en fait. On fait un peu ça la bonne franquette. Voilà, je vous propose tout de suite de voir comment ça se passe.
France Inter, Thomas VDB. Qui veut gagner la flûte à bec ?
Ouais.
Les Pink Floyd.
Alors, ouais, non, c'est pas un blind test. Hein, c'est pas, parce que c'est ça, je voyais que tout le monde, Éric Lompré, qui n'y connaît rien en musique, était prêt à taper déjà. Alors, on écoute Money de Pink Floyd avec cette intro enregistrée au casino de Jean Lépin. C'est extrait de Dark Side of the Moon sorti en 1973. Ce morceau Money de Pink Floyd a une particularité musicale rare pour un tube de musique pop. Quelle est cette particularité?
Ah, Barbara Carlotti, on entend des bruits de pièces.
Oui, d'accord. Okay, c'est pas ça.
Donc,
c'est pas, mais quel est le montant exact des pièces qu'on entend tomber?
C'est ça. Et je crois qu'il y a 1 million.
Alors, c'est pas exactement ça. Alors,
oui.
Marianne.
Peut-être pour 73, le premier album enregistré en numérique.
Si ça tombe, c'est le cas, mais j'en sais rien du tout. C'est pas la réponse que j'attendais en tout cas. Olivier Cachin.
Ouais, j'arrête pas de. C'est le premier album qui a servi d'écoute optimale pour les vendeurs de chaînes haute fidélité dans tous les magasins, Fnac, Darty et autres marques d'électroménager.
Alors là, si ça avait été ça, j'aurais demandé une particularité technologique. Mais là, j'ai demandé une particularité musicale rare pour un morceau de musique pop.
Y a pas de flûte dedans.
Y a pas de flûte dedans. C'est pas la réponse, mais c'est pas la bonne réponse que j'attendais. Non, la bonne réponse, figurez-vous, parce que je vois
attends, on peut te poser des questions.
Ah, attends. Allez, posez-moi des questions.
Il manque un instrument par rapport à la pop.
Non, il manque pas d'instrument.
Est-ce que ça concerne les arrangements
Pas les arrangements exactement.
La réalisation du disque?
Ni la réalisation.
L'endroit où ça a été enregistré?
L'écriture peut-être, ou plutôt la structure du morceau, je dirais.
Ah, il n'y a pas de refrain.
Si, il y a money! C'est un mot qui gueule.
Ah, mais bon, c'est pas vraiment un refrain.
C'est pas ça non plus. Donc, comme je dis, c'est plutôt lié à la structure.
C'est un peu une question solfège.
C'est pas harmonique, c'est plutôt rythmique.
Il n'y a qu'un beat.
C'est à 3 temps?
On n'est pas loin, on s'en rapproche. C'est à 7 temps.
À 7 temps.
C'est ça.
Il m'en manquait 4.
Il manquait 4 temps à Olivier Cachin, effectivement. C'est très rare des morceaux de pop.
Ah oui, il a raison,
j'avoue qu'il faut être, un peu musicien pour être capable.
C'est compliqué.
Sur le dance floor, pas terrible, comme morceau.
Alors, c'est un morceau pour danser, c'est pas un morceau pour
clôturer. Comme première question, excusez-moi, on est au niveau de l'IRCAM, là. On n'est plus à France Inter.
C'est vrai, j'avoue, mais c'est pour ça qu'on a pris un morceau très
connu. Reviens, Pierre Boulez, ils sont devenus dingues.
Oui.
Je précise que j'ai dit un morceau à 7 temps, mais moi je suis pas du tout musicien, et quand on m'a fait découvrir ça dans le bureau de l'émission tout à l'heure, on me disait mais si il compte, il y a 7 temps.
Et
moi j'étais là 1, 2, 3, 4, 5,
6,
je comptais les notes, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, mais donc effectivement, le point est pour moi, si vous voulez bien. Il y a aussi un autre morceau très connu.
Je rêve.
J'ai le droit de participer. Et il y a aussi un autre morceau pop très connu.
Il a fait ça pour gagner lui des flûtes à bec.
C'est moi qui embarque toutes les choses. Je suis un collègue de flûtes à bec. Je vais te dire, attends, je suis d'avant sur eBay.
Je t'en ai amené une.
Caillasse. Barbara Carlotti va nous jouer un extrait de flûte avec tout à l'heure. Il y a un autre morceau pop très connu qui a 7 ans aussi, on m'a dit. C'est Salisbury Hill de Peter Gabriel.
2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Merci à Peter Gabriel qu'on embrasse. Je sais qu'il nous écoute depuis sa cahute.
Il y a un morceau à 5 temps qui est vachement connu aussi.
Take 5. Il y a la valse à 1000 temps aussi, mais bon, c'est hors concours.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué.
Je crois que pour conclure, on peut dire qu'il y a.
C'est quoi un temps? Il peut y avoir jusqu'à 11 temps.
C'est une bestiole qui te pique.
Je crois que pour conclure, il y a plein de morceaux à plein de temps différents. Je crois qu'on sera bien d'accord là-dessus. On passe à la suite tout de suite.
Bottes en cuir blanche à paillettes.
C'est donc avec ce morceau intitulé Waterloo que les Suédois d'ABBA ont remporté l'Eurovision en 1974. Cette victoire, ça a été le début du succès parce qu'ils ont vendu 400 millions d'albums après. Le nom ABBA, pourquoi ils rigolent, Marianne?
Parce que c'est des chiffres, voilà.
Ah ouais, ce qui nous concerne peu, nous.
Entre la poire et la flûte à bec, voilà,
400 millions d'albums. Le nom ABBA vient tout simplement des initiales des prénoms des quatre membres du groupe Agnetha, Björn, Benny, ah oui, j'ai vu ça, Benny et Annifrid, mais ça, Annifrid, c'est un nom composé. Mais le vrai nom, ça devrait être Abaf. Non, ça, c'est autre chose. Et petit problème, c'est vrai, ils sont appelés Abba, mais le vrai nom, ça aurait dû être Abaf. Et petit problème, ils n'étaient pas les seuls Suédois à avoir choisi ce nom à Stockholm. Je vous demande quel autre Suédois utilisait alors déjà le nom Abba. Et là, bim, vous regardez vraiment.
Un musicien.
Grand silence radio, là.
Ah, ouais, un musicien.
C'est pas un musicien.
Un homme politique.
C'est pas un homme politique.
Un mec qui fait des meubles.
Non, c'est pas un mec qui fait des meubles, ni à monter soi-même.
Star du X, non ?
Pas une star du X, je vous aide. Ce n'est pas une personne.
Ah, ce n'est pas une entreprise ?
C'est une entreprise.
Ah bah, c'est une star c'est du X.
Une entreprise de sonorisation ?
Non, mais c'est une marque de quelque chose.
Une marque de basket.
Non, mais c'est vrai qu'après, si on commence à chercher...
De saumon fumé. De charcuterie.
C'est une marque de poisson en boîte de conserve.
Donc, question James. Musicale, t'avais dit. Ok.
Ouais, mais
non, mais on a ton note. Poisson, musique,
c'est ça, musique, ça, musique et poisson fumé. C'est vraiment. Je n'ai pas prévenu que c'était le concept de l'émission. Je croyais que ça avait fait.
S'il y avait une thématique bouffe au début.
Donc, voilà. Alors, donc j'avais un autre indice aussi qui était de dire que ABBA, c'est un palindrome. Alors bon, c'est pas vraiment un indice.
On peut le lire dans un sens et dans l'autre.
C'est comme Laval. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. C'est comme élu par cette crapule.
France Inter, il est 10h12. C'est le point culturel avec Thomas VDB.
J'étais là, mais on m'a balancé une voix en régie. J'entends France Inter, il est 10h12. Alors, il paraît qu'avant l'Eurovision, le manager d'ABBA, il avait appelé le PDG de l'entreprise pour avoir l'autorisation et le gars lui a répondu, bah, du moment que ça ne nuit pas à l'image de marque de nos poissons en boîte.
Est-ce qu'il en a vendu plus après?
Je sais pas si on a vendu 400 millions.
Est-ce que ça s'est reporté sur, le succès d'ABBA s'est reporté sur la boîte?
J'ai du mal à imaginer qu'il en a vendu 400 millions quand même. on écoute la question suivante. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love you, daddy. Alors, what did I say de Ray Charles? Qu'est-ce que j'ai dit de Raymond Charles? C'est avec cette chanson qu'il obtiendra son premier disque d'or. Elle est souvent classée parmi évidemment les morceaux les plus influents de l'histoire du rhythm and blues. Ce que l'on sait moins, c'est que dans ce morceau, à un moment, Ray Charles nous fait part d'un problème d'hygiène intime. Quel est ce problème d'hygiène intime? Alors,
c'est le sif? Il y a un truc avec le sif?
Avec le sif?
Ouais.
Non,
ouais.
Non.
Les bouchons d'oreilles en cire?
Non.
Les dents.
C'est pas les dents.
Il a une crise hémorroïdaire.
C'est pas ça, mais on se rapproche.
Priapisme?
Ah, il voit rien.
Il a un problème. testicule.
Je te vois pas, mais je te sens
il
bébé.
Il a un problème au testicule. Ouais.
C'est la bonne réponse. Ouais. C'est la bonne réponse.
Ah bon?
Bravo Barbara Carlotti, effectivement. Ray Charles, en ce moment, exactement à 3 minutes 57 du morceau, nous indique qu'il a, je cite, des puces aux couilles. On écoute tout de suite.
Oh non! Oh, c'est honteux!
Des puces aux couilles.
Non.
Tu viens tuer la chanson,
non,
Thomas.
C'est scandaleux là.
Mais c'est la vérité. Enfin non, mais non. Bon, on a le droit aussi de faire des questions sur des trucs que je crois que j'ai entendu dans des morceaux à des moments dans ma vie.
Des puces aux couilles.
Alors c'est ce qu'on appelle les hallucinations auditives. Voilà, c'est ce qu'on croit qu'on entend dans un morceau alors qu'en fait le chanteur le dit pas. De même quand le chanteur de Scorpion nous dit dans Still Loving You qu'à un moment il dit ce soir j'ai les pieds qui puent.
Ah oui.
Voilà, il y en a beaucoup d'autres comme ça. On l'écoute d'autres fois quand même. On s'est fait plaisir, on l'a mis plusieurs fois. Mais c'est pas ce soir, c'est plusieurs soirs d'affilée en fait. C'est le jeudi, vendredi, samedi.
C'est vrai.
Le point est pour Barbara Carlotti.
Il a un bon accent hein, quand même.
Ah ouais, c'est vrai que Klaus Main, le chanteur de Scorpion, vraiment cette inégalable.
Capillotracté.
On enchaîne tout de suite. Back when Q was rolling with Lorenzo and a Benzo, I was banging with a gang of instrumentals. Got the pins and pencils. Alors on écoute un morceau de Dr. Dre évidemment que Olivier Cachin avait reconnu.
Olivier oui, Cachin. Là on est dans les gros classiques. Hein,
Dr. Dre, le célèbre généraliste du rap américain. Et donc extrait de l'album 2001, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Ça je ne vous l'apprenais pas non plus.
Non.
Le code barre de l'album
288-25-555-567.
C'est la bonne réponse. Alors ce morceau il s'appelle What's the Difference, ce morceau de Dr. Dre qu'on vient d'écouter. Il est basé sur le sample d'une chanson enregistrée en 1966 par un géant de la chanson française. De qui s'agit-il?
Est-ce que c'est celui-là ou c'est le sample d'Aznavour ou est-ce que...
Oui. C'est le sample de Charles Aznavour.
Wow, bravo.
Et le truc le plus dingue, c'est qu'il a fallu que ça soit les Américains qui aient cherché Aznavour et d'autres trucs de variété française pour que les Français se mettent à sampler du français. C'est ça le pouvoir du rap américain, tu vois.
Mais est-ce que les Américains, quand ils ont samplé Charles Aznavour, ils se sont pas dit oh, c'est bon, il va jamais se rendre compte qu'on l'a samplé. Alors, pensait sampler un truc un peu perdu.
Ça, non, je crois qu'il a quand même payé les droits. Par contre, il avait fait la même chose avec un chanteur indien. Et là, il s'est dit, oh, tiers monde, rien à foutre, c'est la plus grosse compagnie d'édition indienne du monde. Et il a payé des millions de dollars en droits après. Comme quoi, faut jamais sous-estimer le tiers monde, l'Inde et même Charles Aznavour.
Et il a fallu qu'il fasse beaucoup de consultations.
Quel morceau de Charles,
on l'écoute, c'est le morceau qu'on adore, parce que tu crois. J'adore ce morceau. On l'écoute. Il a un peu ralenti le machin, Dr. Dre. Vous voulez l'écouter un peu chanter ou pas?
Un peu, ouais.
Parce que tu crois.
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse.
Et il a pas été écouté jusque-là, Dr. Dre.
Il a coupé avant, il a enlevé la voix déjà.
Quelle bonne idée.
Il a quand même ralenti le tempo. Mais c'est vraiment parce que j'ai dit on écoute le morceau quand même un peu. Et Aymeric Lompré a dit non.
Voilà. Ouais. Non, c'est pas ma préférée de Charles Aznavour.
C'est laquelle votre préférée?
Puisque tu reviens.
Puisque tu reviens. continuons tout de suite de jouer à qui va gagner la fête avec.
Écoute, l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant?
Oh là là, c'est quand même de la musique ancienne. Non, c'est très ancien quand même. Barbara Carlotti, vous connaissez le nom de ce chanteur évidemment.
Tino Rossi.
C'est Tino Rossi.
Tino Rossi.
Qu'on embrasse.
ses enfants.
Le titre
ses
de la chanson.
Enfants.
Je vous ai entendu.
Oh, Katarina, oh, Katarina la belle à Chichi, mais c'est pas ton. Ta flûte à bec à toi.
Katarina.
Non, c'est, moi c'est le, la cucaracha.
La cucaracha, ah, pardon.
La cucaracha. Alors Tino Rossi. Né à Ajaccio en 1907, il a connu un grand succès en France à l'étranger à partir des années 30. Il détient un record que tous les artistes français lui envient et qui n'a rien à voir avec la taille de son sexe. Non. Quel est ce record? Non, quel est ce record? Quel est le record détenu par Tino Rossi que tous les chanteurs français lui envient?
Que tous les chanteurs français lui envient? 300 millions d'albums vendus dans le monde pour Petit Papa Noël?
Alors, c'est pas un album et c'est pas la quantité d'albums vendus, mais c'est effectivement la bonne réponse de nouveau de Barbara Carlotti. C'est le nombre de singles vendus du 45 tours de Petit Papa Noël. 6 millions d'exemplaires vendus en France.
6 millions en France, mais dans le monde c'est énormissime, c'est un truc gigantesque avec les années, parce qu'il n'arrête jamais de vendre ce single.
Bah oui, c'est l'avantage.
C'est lui qui l'a écrit, ça.
Il l'a pas écrit, il l'a juste interprété d'une certaine manière.
Ah, on sait même pas qui a chanté Petit Papa Noël. Donc, qui l'a écrit, je veux
Charles
dire.
Charles Aznavour, je crois.
C'est Charles Aznavour.
Non, c'est Dr. Dre, moi, je peux te le confirmer.
Dr. Dre qui l'a samplé, probablement. Je sais pas si c'est la peine de l'écouter, mais voilà, vraiment. Moi, ça fout un peu le cafard quand même, ça.
Mais moi, je l'écoutais.
Vraiment, c'est horrible.
Je l'écoutais à Noël. Je peux pas m'empêcher de l'aimer parce que c'est vraiment la. C'est vraiment mon enfance.
C'est la magie de Noël.
C'est la
magie.
Non, là, il n'y a pas de magie.
Elle ne figure pas dans cet album de chansons sur la Corse.
Non. Moi, il y a des jolies chansons que chante Tino Rossi, mais moi, j'ai choisi de chanter Corse, Île d'amour.
Qui est une chanson de Tino Rossi?
Tino Rossi n'est qu'un interprète, donc il n'a pas écrit, en fait. C'était Vincent Scotto qui écrivait souvent des chansons pour lui.
Vincent Scotto,
ouais.
Qu'on embrasse évidemment, qui nous écoute régulièrement. Ce morceau, il a été repris par beaucoup d'artistes, dont Mary J. Blige, Florent Pagny, qui nous écoute.
Là, tu parles
Patagonie.
De Petit Papa Noël.
Je parle de Petit Papa Noël. Ah non, je parle pas du morceau de Barbara Carlotti. Et plus étonnant, les Chœurs de l'Armée Rouge ont repris Petit Papa Noël. Une fois en douce. Ça, c'est plutôt version douce.
Ouais, là, c'est plutôt pour aller à la guerre, non?
Voilà. Ouais. Non, la version pour aller à la guerre, c'est quand ils se sont rendus compte que Père Noël n'existait pas. Ils ont refait. C'est vraiment plus énervé.
En mangeant des steaks de rennes.
Ouais, je pense que vraiment, ça sent le.
Mais de toute façon, est-ce qu'on peut dire que Petit Papa Noël n'est pas une chanson particulièrement enthousiasmante?
Qui fente. C'est pas une chanson qui dégage.
C'est une petite mélopée enfantine, mais on n'a pas trop de plaisir à la réécouter, bizarrement.
Non, j'avoue.
Surtout en plein mois de. En plein été.
En plein été.
Ça fait bizarre.
En plein mois de fin juillet.
Ouais, c'est ça.
Il y a aussi. Alors, Aymeric Lompré, j'étais surpris d'apprendre ça. J'ai appris que vous n'avez découvert que l'année dernière. Que le Père Noël n'existait pas et ça m'a vraiment Oui, surpris.
C'était une déception. J'ai découvert une déception. Après, j'ai jamais été vraiment très gâté à Noël. Donc, vous allez voir, je suis très fort en impro là. Vous allez voir, ça va partir.
Ok. Alors bon, en tout cas,
mais je voudrais savoir qui a écrit Petit Papa Noël.
On va chercher.
On j'invite tous les auditeurs.
Est-ce que c'est un air populaire qui s'est transmis de génération en génération dont on ne connaît pas l'auteur, comme beaucoup de chansons populaires?
Ouais, peut-être.
Traditionnel.
Vraiment, je ne sais pas trop. Et c'est marrant, c'est fou de me rendre compte à quel point ça ne m'intéresse pas. Ça va.
Alors en tout cas, vraiment, il y a aussi la version.
Ça ne nous intéresse pas.
Il y a aussi la version du groupe de hard rock français Trust. Mais bon, c'est vrai que souvent, comme du Trust, en écoutant, on a un peu l'impression de se faire engueuler. C'est qu'est-ce que.
Ah putain, mais c'est vraiment la séquence pénible de l'émission
ça,
là.
Ça fait, on peut arrêter ça. Tout
surtout
suite,
que Trust est en tournée acoustique au moment où on parle, donc quand même.
Trust est en tournée acoustique.
C'est, enfin, tu sais tout, toi. C'est ouf.
Antisocial à la 12 cordes avec de l'ocarina.
Exactement. Vous n'aviez que vous disiez. Un petit truc sur Papa Noël, juste. Tu aimes les Sparks?
J'aime assez bien
dans
les
la
Sparks,
chanson oui. Change des Sparks, il dit ça ne sert à rien comme de savoir si le Père Noël existe ou pas.
Ah, voilà. C'est vrai, exactement. Oui. Les Sparks, dont on va reparler dans cette émission, puisque sort en ce moment la bande originale du film Annette. Et il y a aussi au cinéma le documentaire sur le film des Sparks, sur les Sparks. On passe tout de suite à la question suivante.
Ouais.
Alors. Là, on écoute Relax de Frankie Goes to Hollywood, les Anglais qui ont sorti ça en 1983. Alors, la question est un peu pointue. Là, récemment, trois jeunes tourangeaux, donc un groupe de tours, a imaginé que Frankie pourrait tout aussi bien aller ailleurs qu'à Hollywood, à savoir aux Antilles, pour faire du zouk, par exemple. Donc, je vais vous demander comment est-ce que ce trio tourangeaux, qui est un trio rock, mais qui a décidé de faire du zouk, a décidé de se nommer. Grosso modo, voilà, c'est un genre de Où est Charlie ? C'est-à-dire que c'est un jeu en fait où Frankie va dans une autre ville et c'est le nom de ce trio tourangeau. Est-ce que donc ça pourrait être par exemple Frankie Ghost ou Brive-la-Gaillarde ou Frankie Ghost ou Limoges.
Mais faut le dire en anglais. Alors le dire en français ou en créole.
Le nom du groupe est un se dit en anglais.
Il y a un jeu de mots. Ils ont eu l'idée de faire un jeu de mots.
Ils ont eu l'idée de faire un jeu de mots comme Frankie Ghost ou Paimpol. Frankie Ghost ou Paimpol par exemple. Quel est le nom de la ville dans laquelle seront Frankie pour que ça
Guadeloupe,
donne le nom?
Alors, qu'est-ce qu'on a?
C'est un peu compliqué quand même.
Oui, c'est compliqué. C'est compliqué.
Frankie Ghost ou Pointe-à-Pitre?
Oui. Frankie Ghost ou Pointe-à-Pitre? Ah, c'est le nom de ce trio tourangeau qu'on écoute.
Hey. Ah oui, c'est rock. C'est zouk rock.
Ah oui, c'est plus que recommandable. C'est du
zouk vénère.
C'est du zouk joué comme du punk. Frankie Ghost ou Pointe-à-Pitre, il y a deux albums génial. Que je vous recommande.
C'est la vraie réponse.
C'est la vraie réponse.
Et ça me fait deux points alors.
Mais
ça
fait,
on va faire
on est en
on va faire un point sur les scores.
Aussi, ouais.
Bon, attendez, au fond de la classe après du radiateur, vous faites quoi
juste là, j'embrasse le radiateur. Bon.
Alors là d'abord on va écouter un morceau de la playlist, mais je voulais faire un point sur les scores en commençant par rappeler que vous avez tous marqué des points sauf Émeric Lombé qui n'a pas tu n'as pas marqué de points toi aussi sur quoi?
Une bonne blague j'ai fait.
Ah oui, ok. Je vous propose de remettre tous les compteurs à zéro.
Ah.
Et puis, on écoute tout de suite.
Quoi, ce jeu
pour rester du côté de Pointe-à-Pitre, on va écouter un morceau de ce groupe Delgrès. Le morceau s'appelle Alias. On l'écoute tout de suite.
Mais je dis, je m'en moi qu'à demander, qui j'en moi fait pour continuer. Si mon nom moins qu'à garder moi, mais vous nous laissez moi pour aller.
Inter. Qui veut gagner la flûte à bec ? Thomas VDB.
Et lequel de mes quatre invités s'en repartira avec une magnifique flûte à bec ? Est-ce que ça va être Barbara Carlotti, Marianne James, Olivier Cachin ou Émeric Lompré ? Eh bien, je propose tout de suite de rejouer pour le savoir. Alors, donc on rejoue à gagner la flûte à bec. Là. Donc là, ce qu'on écoute, c'est un morceau.
On n'a pas changé de rubrique. Bienvenue dans ton émission, quand même.
C'est toujours le même jeu. Je suis obligé de me rappeler le nom de l'émission pour me rappeler ce que je suis en train de faire. Là, on est en train d'écouter le morceau Death Crush qui, du groupe Mayhem, qui est un morceau qui passe un peu à la radio. Mayhem, ouais. Qui veut dire chaos, désordre et aussi mutilation du corps humain. Ouais. Voilà, bon, et alors, formé en 1984, ce groupe norvégien est une référence du black metal. Pouvez-vous me dire dans quelles conditions Euronymous, le créateur et guitariste de Mayhem, a-t-il quitté le groupe au début des années 90 ?
Les pieds devant.
Olivier Cachin.
Alors, il me semble qu'il est mort de façon très sordide dans une cabane, peut-être tué par ses camarades du groupe, je crois, qui ont filmé la scène et gardé le cadavre.
Absolument. Alors, exactement. Euronymous ne fait plus partie du groupe Mayhem à partir du moment où il a été assassiné par un autre membre du groupe en 1993.
Bonne raison pour quitter le groupe. Hein,
c'est vrai qu'à partir de là, c'était un peu dur d'assister aux répétitions. Et voilà. Et donc, il faut savoir que 2 ans plus tôt, c'était déjà un autre membre de Mayhem qui s'était donné la mort. Ouais. C'est-à-dire que même pour du black metal, c'est quand même une histoire assez sombre. Alors, il faut savoir que le batteur du groupe est une patte, paraît-il. Alors, voilà, ça, c'est quand même sympa. Il paraît que le mec est trop cool. Voilà. Le reste est une drôle d'ambiance. C'est aussi les membres de ce groupe qui brûlaient des églises au début des années 90 en Norvège, qui leur donnaient des raisons d'être assez mal vus de tout l'univers des prêtres.
Si vous me le permettez, je me suis permis juste avant, monsieur Cachin, de glisser hein, les pieds devant.
Les pieds devant.
Oui, il est parti les pieds devant.
Ah, il est parti pieds devant, exactement.
C'est vrai. Juste avant qu'il sonne. Mais c'est vrai. Pas sonné. J'ai dit, il est parti les pieds devant.
C'était trop métaphorique. Je ne peux pas, je n'accepte
mais
pas
c'est
les réponses métaphoriques.
Mais il touche plus, monsieur VDB. Il
ben non,
dire,
mais
hein.
J'ai mes réponses claires et nettes. Bon, allez, le point est partagé. Un demi-point.
Et moi aussi, j'en prends aussi.
On partage un point en trois. Il fallait dire qu'il était assassiné, non?
Il a été assassiné, c'est vrai. Les pieds devant, ça ne veut pas dire qu'on s'est assassiné. C'est vrai.
Pardon, hein. Marianne,
je vous reprends le demi-point. Je vais le donner à Barbara Carlotti. Tiens.
Non, j'en veux pas, moi. De toute façon.
C'est vraiment l'émission. Partagé, on dirait un tir au but.
L'émission où personne n'a envie de gagner, quoi. Ah, je te donne mon point. Non, j'ai pas envie de flûte, moi. J'aime pas. Bon. Rejouons tout de suite. À qui veut gagner la flûte avec.
Au bas-haut. Non.
C'est Erta, non?
C'est Erta! Bien sûr, là.
Écoutez les choses simples.
C'est ça la question? C'était pas une question.
Ah, mais moi, c'est Jean-Paul. Bon.
Alors... voilà! C'est dingue, vous avez faim, Thomas.
C'est clair, non, mais c'est vraiment le morceau.
C'est un hommage, peut-être.
Qui donne envie d'aller acheter du jambon tout de suite quand on entend
non,
ça.
Non, de faire un petit. Dans une rivière, un mettre
moulin.
Un petit bateau.
Ouais,
un petit moulin.
Avec son petit-fils.
Avec des petits bouts de bois.
Oh là là, cette publicité.
Des petits bouts de bois taillés avec un petit canif.
Oh,
un petit fien.
Et je me souviens qu'à chaque fois que le papy montrait ça à son petit-fils, le petit-fils n'était pas emballé. Il disait ça, ouais, ok, papy, tu sais me faire un petit moulin. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on peut aller regarder les dessins animés quand même? Bon. Alors, donc on vient d'écouter la musique de la pub Erta, avec ce petit garçon qui jouait le petit air de flûte mélancolique. La question, est-ce que vous savez qui est le compositeur de la musique de la pub Erta qu'on vient d'écouter?
Eh ben,
bim!
Patrick Juvet.
Non.
Richard Klederman.
Non,
Richard Gottener.
Qui a fait pourtant.
Il est français.
C'est pas Richard Gottener qui a fait effectivement beaucoup de musique de pub.
Julien Clerc.
Ce n'est pas Julien Clerc.
Michel Legrand.
Non plus.
Il est vivant?
Tino Rossi.
Non, il n'est pas vivant.
Non, il a fini par mourir.
Et ce n'est pas le mec de Mayhem, le groupe d'avant.
Francis Lay.
Ce n'est pas Francisco.
Michel-Magne.
Ce Son n'est fils. Pas Michel-Magne non plus.
Charlemagne.
Bah, je suis humoriste, moi.
Alors, c'est pas Francis Lay, mais il y a un truc un peu...
Jean-Michel Jarre.
Non, ça pourrait être son frère, Francis Lay.
Quelque
Francis
chose.
Lalanne.
Non, non.
Alors, on l'est. Qu'est-ce qu'on a en lait?
Cléderman, non, on a dit déjà ça.
C'est Pierre Bache, le frère de Francis Lay. C'est Pierre Bachelet.
qui
a Pierre Bache.
Composé cette musique de la pub Herta. Il a été payé en knacky balls, paraît-il. Il a eu son point.
Mais les royalties d'Emmanuel ne suffisaient donc pas?
Ben non, parce qu'effectivement, comme le souligne Olivier Cachin, il a fait beaucoup de musique de films érotiques.
Et il a dit d'amour, chanter le corps d'Emmanuel. J'ai grandi avec ça.
Enfin, grandi.
Histoire d'eau aussi, il a fait.
Oui.
Les bronzés font du ski. C'est lui qui a fait la musique des Brésil Fonuski, c'est bien. Pierre Bachelet. Et il était.
Okay, aussi, Chicago aussi.
Alors, ben voilà, justement, on allait y venir. Parce que Pierre Bachelet, il a fait aussi du funk un peu à la Huggy des bons tuyaux.
Terrible.
C'est complètement fou de se dire que c'est lui qui a fait ça, Pierre Bachelet.
Résonance.
Résonance.
Exactement.
C'est quoi ça, c'est
Pierre Bachelet.
Et c'est la musique de quoi, ça?
C'est la musique de Résonance de Pierre Bachelet, le groupe.
Alors, Résonance, c'est un duo monté par Pierre Bachelet en 1973. Et donc, ils ont fait ce morceau qui s'appelle Ok Chicago, et qui est vraiment une espèce de morceau
fun. Ça change des corons, hein.
Ça change des corons. Donc, sur lequel je voulais faire réagir Aymeric Lompré, justement.
Les corons, pour nous, c'est un hymne. Hein.
C'est un hymne.
Au stade Bollard, quand on va voir les matchs de Lens, tout le monde chante, 30 000 personnes qui chantent les corons, ça te fout les poils.
Je pense qu'on peut peut-être les écouter, ces 30 000 personnes qui chantent les corons.
Ouais. Mais. On y va, on y va.
Écoutez, j'ai mieux que ça.
C'était les corons.
La terre, c'était le charbon.
Arrêtez-vous tout de suite, j'ai beaucoup mieux que ça.
Hommes.
Qui veut gagner la frite à bec?
Ok, les jeunes.
Qui n'en veut de la frite à bec?
C'est Zifra?
C'est un flûtiste quelconque. Faut taper flûtiste quelconque dans Google. Et jouons tout de suite à qui veut gagner la frite à bec. Alors, on écoute un des grands tubes du Kuduro, le morceau Kalemba par le groupe Buraka Sound Systema. Donc ça faisait beaucoup de syllabes que j'avais pas prévu de dire aujourd'hui. Donc Buraka Sound Systema, c'est une sorte de Massilia Sound System du Portugal, mais quoi, qui parle moins de pastis, je pense. Le Kuduro désigne à la fois un genre musical et une danse venue d'Angola, mais le créateur de la danse a expliqué qu'elle lui avait été inspirée directement par une scène de film où on voit un célèbre acteur improviser quelques pas de danse dans un bar. Quel est le nom de cet acteur?
Donc, film français ou étranger?
C'est un film étranger.
Récent, assez récent?
C'est pas récent, ça a plus de 20 ans.
Un acteur dans un
bar? Dans les années 80?
Ouais, c'est fin 80, début 90, je pense.
C'est pas Clint Eastwood, c'est pas possible.
C'est pas Clint
Eastwood. J'aurais bien dit Antonio Banderas dans Evita, mais non.
Non, c'est un... Alors je vais vous aider, c'est un acteur européen.
Antonio Banderas?
Non.
Non, alors.
Mais il est européen, Antonio Banderas?
Je crois qu'il est.
Ah, ouais. Attends, non, européen,
non,
mais.
C'est pas Antonio Banderas. C'est pas Antonio Banderas.
C'est un acteur italien.
C'est pas un acteur italien.
Anglais.
Ni anglais.
Allemand.
Non.
Portugais.
Elle ne connaît pas beaucoup d'acteurs allemands.
Vous faites des
russes.
Oui, si je vous avais dit oui, il est allemand, bah, vous auriez une bonne mine. Gunther, fêche-mêche. Non, c'est un acteur belge.
Ah, bah, j'ai bon. Alors, je viens de dire belge.
Alors, pardon. Je demandais pas une nationalité, je demandais le nom d'acteur.
Alors, Poulvorde?
Non, c'est pas Benoît Poulvorde.
Bah, acteur belge en même temps, ça restreint.
Il est que acteur
ou il fait d'autres trucs?
Il est acteur.
Tu le connais ou pas?
Personnellement, non, mais vous le connaissez, ça c'est sûr. Un acteur belge, bon, bah si, bah, je peux vous aider.
Alors, c'est Depardieu parce qu'il a été belge à un moment.
C'est pas Depardieu non plus.
Non, mais qui danse, qui lui inspire cette musique. Bon,
c'est aussi un acteur qui se bat.
Ah,
Van Damme.
Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme, évidemment. Double bonne réponse de Marianne James et Olivier
Sacré
Cachin.
Jean-Claude.
Dans le film Kickboxer.
Eh ouais, il danse.
Et alors, il faut tout de suite aller sur YouTube et taper scène de danse Jean-Claude Van Damme parce que c'est un régal.
Il est bon.
C'est un régal. Ben ouais, mais
si,
en fait,
c'est un immense danseur.
C'est une des premières fois où on le voit essayer de faire des gestes un peu érotiques.
Oui, avec un jean taille haute jusqu'ici.
Exactement.
Là, voilà. C'était extrêmement suggestif.
Ouais. Ah voilà. Oui. Donc Marianne James a bien vu le film Kickboxer.
Oui, le t-shirt blanc rentré, la petite ceinture. Voilà.
Et il drague en même temps qu'il danse et qu'il se bat. C'est-à-dire qu'à un moment,
il sait tout faire.
Ah, il sait tout faire.
Bah, il fait un latéral, il fait un fauché latéral et dans le nez d'une fille. Boum.
Et donc, le danseur et musicien Tony Amado a raconté qu'il a vu cette scène où Jean-Claude Van Damme danse dans le film Kickboxer et il s'est dit, il a été frappé par le fait que l'acteur dansait en raidissant les muscles fessiers. Et de là est venue l'idée du cul duro.
Ça vient du cul dur.
Est-ce que c'est vrai ou pas?
Bah, c'est vrai, apparemment, ça vient du cul duro, ça veut dire cul dur.
Ah ouais, bah, très bien. Ouais,
c'est
ouais.
Pas du VDB, ça?
Non, c'est ce qu'on m'a dit.
Oui. Oh, il a l'air innocent.
Je vous ai regardé sur les fiches Wikipédia.
Donc le coup duro, c'est le cul dur.
Le coup duro, ça vient du cul dur.
C'est le fait de contracter les muscles du cul comme ça.
Exactement.
Ah,
ouais, je suis le premier étonné, mais je ne fais que lire les fiches qu'on m'a données. Hein. Rejoins. À qui veut gagner la flûte à bec? Alors, donc là, on écoute la diva française Nathalie Dessay qui chante un extrait de l'opéra intitulé L'Acmé, composé en 1883 par Léo Delibes. Le rôle-titre, celui de L'Acmé, est réputé pour être un véritable morceau de bravoure à l'attention des sopranos coloratours. Mais qu'est-ce qu'une voix colorature ?
C'est la plus aiguë. Hein.
Qui fait plein d'ornements.
C'est la plus aiguë.
Est-ce que vous pourriez prendre un air moins blasé quand
vous
donnez
la
bonne
réponse? Non, parce que il me semble...
Voilà, elle ne fait pas plein d'ornements, elle, alors
oui, parce
que les autres...
Oui, c'est la plus légère et la plus aiguë des voix coloratoires. Après, il existe encore une autre voix au-dessus d'elle, mais il n'y a pas vraiment d'œuvres qui ont été écrites, ce qu'on appelle la voix de sifflet, qui est encore à l'octave du dessus. Mais donc, une colorature, elle te fait un contrut, comme elle te dit « Bonjour Thomas, ça va ?»
Oui, c'est ça. Voilà. Donc, parce que vous, par exemple, en tant que chanteuse, c'est quoi vos voix vos
Moi, deux... c'est mezzo.
Mezzo.
Autant de grave que début mezzo. Bon, on l'entend, on la voit parler. Vous, Thomas, vous êtes plutôt baryton.
Moi, je suis baryton.
Alors,
fumeur.
Quand vous êtes réveillé, oui, voilà.
Ouais, c'est ça, baryton. C'est alors, exactement, une voix colorateur, c'est du latin colorare, qui signifie orné. Ornum.
Elle a raison, c'est elle qui a le point. Elle a dit orné.
En musique classique, ça veut dire une voix virtuose qui est apte à réaliser des vocalises ou des ornementations complexes. C'est quelqu'un qui chante bien, en fait. Hein, dire, c'est quelqu'un qui est très bon techniquement.
Il y a plein de trucs en haut, comme ça, hyper véloce et tout ça, quoi. Ouais.
Alors, il paraît qu'une des partitions coloratures les plus dures, c'est l'air de la Reine de la Nuit de Mozart.
Oui. C'est très très dur parce qu'il y a beaucoup de caractère, mais moi je pense que ça aide en fin de compte.
Au lieu d'être
simplement joli ornemental, il faut vraiment le jouer. C'est la Reine de la Nuit, elle pète une grosse colère. Et pendant cette grande colère, eh ben elle fait le fameux air très très connu que je ne vous chanterai pas.
Allez.
Dommage.
Bah on va l'écouter d'ailleurs, la version de voilà, c'est ça, c'est
bon.
Bravo.
Et ça a été raté aussi, cette chanson, par la chanteuse Florence Foster Jenkins, qui est vraiment... n'y arrivait pas.
Plus lent
tout.
Le tempo, c'est plus dur de chanter plus lent.
Vraiment, on sentait qu'elle
avait... C'est terrible, bah écoutez.
Pas très envie d'aller.
On dirait...
Attention.
Voilà.
Moi, j'aime bien.
Bah, disons qu'elle...
Elle y arrive
c'est
pas,
blues.
En fait.
Ouais. Elle bémolise elle fait du blues.
Ouais,
là,
c'est ça, c'est freestyle.
Mais elle était mariée à un milliardaire.
Ah oui, c'est ça. Et donc,
elle était
venue
faire des concerts.
Il lui a loué le maître pour elle. Et tous les amis étaient endimanchés et lui ont fait une ovation. Elle a fait son concert avec les plus grands airs qu'elle a littéralement massacré. Et ils ont dû passer une soirée assez longue.
J'avais entendu
cette
histoire. Ouais. Ça se trouve en disque. Il y a deux films qui ont été inspirés de l'histoire de Florence Foster Jenkins.
Mais elle y croyait quand on nous demande dans les émissions de jeu, là, les talents de show là, qu'on voit sur les émissions. Mais n'empêche, ils nous disent toujours les casseroles. Le taxi, en venant à cette émission, m'a demandé. Mais franchement, les casseroles dans ces jeux, ils le font exprès. C'est la télé qui les choisit, mais pas du tout. Je vous dis qu'une casserole, ils croient aussi fort qu'un Julien Doré.
Mais parce que quand vous étiez à Nouvelle Star, il y en a vraiment eu beaucoup des casseroles qui passaient.
Alors, ce qu'on pouvait nous reprocher, c'est que nous, le jury, on voyait pas que des gens bons. On voyait aussi des chanteurs très très approximatifs ou très enroués et c'était ça, c'était de la chair à télévision comme on dit.
Bien sûr.
Mais ils étaient consentants, ils avaient signé, ils savaient, ils ont grandi avec la télévision et persuadés qu'ils étaient bons tout autant, le même espoir qu'un Christophe Willem ou un Julien Doré, absolument le même espoir. Sauf les carabins, sauf ceux qui ont fait un pari en école de médecine. Et qui arrivent à 3 ou 4 pour chanter une chanson et qui ont bien oublié de dire qu'ils étaient tout nus sur la blouse blanche et qui au moment de l'aigu de la chanson hop hop ils ouvraient la blouse blanche, ils étaient tout nus.
Ça on l'a pas vu à l'écran.
Ça, c'est pas passé à la télé,
on n'a pas pu le laisser au montage.
Et ben donc le point est attribué évidemment. Genre on va même donner 2 points à Marianne James parce que
elle
là.
Elle a dit elle était plus exacte que moi. J'ai dit la voix la plus légère. Mais elle a dit
on les partage.
2 points chacun. Vous me demandez des points à la fin, je vous en donne.
Moi je te laisse le début de la flûte, je prendrai que la fin.
C'est vrai que Barbara Carlotti, vous êtes venue avec votre flûte. Est-ce que vous voulez peut-être nous jouer un air de flûte?
Alors je ne sais pas jouer de flûte.
Parce que ce serait le premier air de flûte qu'on entendrait jouer en live dans cette émission. Barbara Carlotti à la flûte tout de suite. Les auditeurs, voilà, des centaines de
c'est
tweets déjà de plaintes.
C'est un hommage à Philippe Catherine qui fait souvent des solos de flûte dans ses concerts. Ouais. Alors, j'aime bien, mais j'arrive pas à faire comme lui. Lui, il est beaucoup plus convaincant, sans savoir.
C'était une douce mélopée qu'on vient d'entendre de Barbara Carlotti.
Ah oui.
Je propose qu'on rejoue tout de suite à qui veut gagner la flûte à baisse.
Ah ouais, quelle ambiance.
Alors, on est en train d'écouter Michael Jackson et Paul McCartney en 1983 interpréter la chanson The Man. Après CCC et Girl Is Mine, c'est le troisième duo enregistré par ces deux géants de la pop qui étaient du coup hyper potes jusqu'au milieu des années 80. Ils étaient très amis, Paul McCartney, Michael Jackson, ils faisaient beaucoup de barbecue, de plancha. Mais en 1985, un événement va soudain aboutir à une brouille définitive entre les deux hommes. Pourquoi Michael Jackson et Paul McCartney se sont-ils disputés? Olivier Cachin.
Eh bien, l'explication
Olivier
est simple.
Olivier Cachin qui a écrit un livre sur Michael Jackson.
J'ai un petit peu d'avance. Alors en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que les chansons des Beatles, le catalogue d'édition des Beatles, c'était en vente, mais Paul McCartney trouvait que c'était trop cher. Il ne l'a donc pas acheté. Et c'est Michael Jackson qui l'a acheté, au grand dam de Paul McCartney, qui aurait mieux fait de se réveiller plus tôt, parce que finalement, il s'est avéré que ce prix extrêmement cher, je ne sais plus combien, c'était en millions de dollars, était en fait ridicule par rapport à ce que ça pouvait rapporter, vu que 10 ans après, ça valait genre 10 fois sa valeur. Donc tant pis pour Paul et bravo pour Michael, qui en plus d'être un grand chanteur, était un grand financier aussi.
Est-ce que c'est encore les ayants droit de Michael Jackson qui possède les droits des chansons des Beatles?
C'est super complexe parce que c'est un catalogue de milliers de chansons qui contient aussi les chansons de Sly et de Family Stone et plein d'autres artistes. Wow. Et tout ça est extra... C'est un peu comme Adidas et Bernard Tapie, c'est le genre d'affaires, tu vois. Dans 20 ans, on en parlera encore. Okay. Alors, il me semblerait que cet héritage soit de. Enfin bon, bref, on ne sait plus à qui, mais les chansons sont belles.
Le point est donc évidemment donné à Olivier Cachin. Pour cette explication remarquable.
C'était la bonne réponse.
Ah, bravo.
Merci Emeric.
Comme dit Emeric, c'est exactement la bonne réponse, Olivier. Merci. Je propose qu'on reste sur Paul McCartney. On va rester sur lui pour écouter un titre en duo avec Anderson .Paak. C'est le morceau qu'on écoute tout de suite sur la playlist de France Inter.
Winter comes and food is scarce. We'll warm our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes, must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce. Stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes, I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make a shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll warm our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes and find the sun. When winter comes.
France Inter. Qui veut gagner la flûte à bec ? Thomas VDB.
On continue de jouer avec mes quatre invités, Barbara Carlotti, Marianne James, Olivier Cachin et Émeric Lompré. Qui va gagner la flûte à bec ? Eh bien, nouvelle question.
À Saint-Tropez, oui, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France.
Alors là, on est évidemment en train d'écouter Dick Rivers avec Les Chats Sauvages en 1961. Et là maintenant on va écouter un autre morceau qui est celui-ci. La question étant, pouvez-vous me dire quel est le rapport entre Dick Rivers et la musique que l'on vient d'écouter ?
Les initiales Dark Vador et Dick Rivers, non ?
Non, non, parce que non, c'est DR et DV. Mais donc ça ne marche pas.
Est-ce que c'est un lien musical ?
Non, c'est pas un lien musical.
Ah, c'est un lien...
C'est un lien sentimental.
Dark Vador est le père de Dick Rivers.
Waouh, ah. Wow, on n'est pas loin du tout.
C'est vos chansons, c'est vos thèmes de musique préférés, Thomas, quand vous étiez petit.
Dark Vador non, et Dick Rivers. Non, j'aimais mieux Dark Vador et Dick Rivers, mais...
Mais on ne sait jamais.
Alors non, je pensais que... Alors ça, en fait, soit on le sait, soit on ne le sait pas.
Ah bah,
le lien
un indice,
existe,
un indice.
Visiblement,
on ne sait pas.
Un indice. Ben, on était sur C'est familial, il y a un lien familial.
Bon,
il y a un
lien alors, familial entre est-ce que ça a un rapport avec John Williams, le créateur de la musique
non,
de Dark Vador ?
Pas avec John Williams.
Donc, alors, Lucas, alors.
Avec George Lucas.
Alors, George Lucas et l'arrière-petit, ils sont avec Dick Rivers, ils sont cousins au cinquième degré.
Alors, tu le dis avec un tel aplomb qu'on dit c'est la bonne réponse.
Je vais, alors, ça n'est pas la bonne réponse, mais on s'en rapproche tellement que je vais être obligé de la donner. George Lucas a été pendant 3 ans en couple avec Natala, la fille adoptive de Dick Rivers.
Ah, il faut savoir.
Ils se sont rencontrés lors de l'inauguration. Non, mais attendez. Ça veut dire que Dick Rivers, ça a failli être le beau-père de George Lucas. C'est-à-dire, peut-être des fois, il lui parlait, il faisait. C'est ton beau-père. Mais surtout. Mais il faut. Donc, raison pour laquelle, quand en 2005, quand il y a eu, je sais plus quel épisode de Star Wars qui est sorti et qui était projeté à Cannes, George Lucas a monté les marges de Cannes, bras dessus, avec Dick Rivers.
Dick Rivers.
Et il faut
magnifique.
Se mettre un peu à la place de Dick Rivers, il a sûrement envie de faire des gros doigts à tout le monde. Ah, on fout ma gueule maintenant, hein. Évidemment, parce que je suis en train de monter les marches avec George Lucas, voilà, ça pèse. Dick Rivers qui devait à la base, ça je l'ai appris, je ne savais, devait jouer le personnage de Yann Solo. On écoute tout de suite une autre question. Alors. On est en train d'écouter un chien qui chante Whitney Houston. Puisque le chien donc qui s'appelle Lady Xena, qui était sur le plateau de Belgium's Got Talent, interprète I Will Always Love You. Si vous aimez les chiens qui chantent...
Il a l'oreille absolue, ce chien.
Les chiens qui chantent sur YouTube, il y en a plein. Vous trouvez un labrador qui chante du Midnight Oil. Il y a plein de vidéos de chiens qui chantent sur YouTube. À ce propos, pouvez-vous me dire...
C'est une blague musicale, c'est ça ? Parce que j'ai vraiment pas compris.
Non, j'ai dit... C'est drôle, en fait.
C'est un chien qui chante du Whitney Houston. Et je dis, il y a plein de vidéos de chiens sur, sur YouTube. Et j'ai dit, il y a un labrador qui chante du Midnight Oil. C'est une blague.
Faut connaître Midnight Oil.
Ouais, parce que Midnight Oil, c'est connu.
C'est
quoi,
pas très mélodique.
Je te dis, j'y connais vraiment que dalle en musique.
Midnight Oil, quand même.
C'est quoi, Midnight Oil ?
Midnight Oil, c'est...
Burning. Ah, Midnight Hall!
Australie 87!
Peut-être que je rends service à plein d'auditeurs qui disent Ah, je savais pas ce que c'était Midnight Hall.
Ah ouais, Midnight Hall, c'était bon. Alors la question. Donc, on vient d'écouter un chien
qui est
Houston. À ce propos, je vous demande quel chanteur français a enregistré ses deux chiens sur son dernier album pour un morceau intitulé WAF.
Julien Doré.
Ouais. Vas-y, laisse-le-moi ce point.
Ah, je lui laisse.
Allez, c'est cadeau. C'est la première bonne réponse, Émeric Lompré.
Yes.
Julien
Doré que j'embrasse.
Oui, parce que tu es ami avec Julien Doré.
On était ensemble.
En classe?
Non, au Festival de Cannes en 2005.
Ensemble, c'est-à-dire. Vous étiez
quand Dick Rivers montait les marches.
Oui, on était juste derrière.
Lucas,
juste derrière. Non, on est un peu amis avec Julien Doré.
Le titre complet de ce morceau, c'est WAF featuring Simone et Jean-Marc. On peut l'écouter, l'extrait de Julien Doré.
Ouais. Ouais.
Trop bien, ça.
Les chiens ont moins donné de leur voix que quand même sur la version de Whitney Houston, je trouve.
Plus rythmique.
Le titre complet, donc WAF featuring Simon et Jean-Marc, c'est le nom des deux chiens. C'est sur l'album sorti, le dernier album qui s'appelle Aimé, sorti en 2020, de Julien Doré. On écoute tout de suite la devinette suivante.
Like donut if you cut.
Comment?
Like donut if you cut. Non, j'essaye de trouver en français ce que
c'est. C'est James Brown qu'on écoute avec Talking Loud and Saying Nothing, un de ses nombreux hits, sorti en 1972. À cette époque, son groupe compte parmi ses musiciens un tout jeune bassiste surdoué qui va marquer l'histoire du funk. Quel est le nom de ce bassiste de funk?
William Bootsy Collins.
Olivier Cachin, bravo. Bravo.
Avec son frère Catfish Collins.
Alors bravo pour le William et pour le Catfish que j'ignorais complètement. Merci pour tous ces détails que je ne demandais pas et qui vous font gagner encore ce point.
Tu m'en fais quoi, tu fais ta bec ?
Professeur Cachin.
Je sais pas, mais je suis en chemin vers la victoire, on dirait.
Bien sûr, t'as déjà...
Effectivement, avec son frère guitariste, Bootsy Collins avait monté un groupe de funk appelé les Pacemakers. Et James Brown a décidé de virer un jour toute son équipe après des embrouilles d'argent. Et il a recruté donc ce jeune groupe pour l'accompagner. Et il leur a dit, par contre, je vous change le nom et je vous appelle les Gibbies.
Gibbies, oui.
Les Gibbies, exactement.
Je savais pas ça.
Sans blessant. Il m'a pris au dépourvu.
Et c'est vrai, il figure ou pas James Brown sur ces compilations de soul et de funk que vous venez de sortir chez Vagram?
Non, c'était trop cher.
C'est un peu cher.
Oh mince.
Mais faut aussi préciser que Bootsy justement est sur ce fameux live à l'Olympia en 72 qui est extraordinaire, qui est resté longtemps inédit, où James Brown joue avec ce nouveau groupe les Gibbies, où il y a Bootsy, et c'est extraordinaire.
Enregistré à Paris donc
à l'Olympia, absolument, c'est à Paris.
Ça fait beaucoup de points, on va en profiter pour faire un petit décompte des points tout de suite.
Elle est pour qui la flûte à bec?
Et on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous ai dit qu'il y avait plein d'autres questions, mais on a
joué.
Ah mais ça, vous jouez, on ne va pas le temps passer quand elles on joue à qui veut gagner la flûte à bec. Il faut réécouter la semaine prochaine.
Oui, tonton Thomas, elles sont difficiles tes questions.
Elles sont difficiles, mais c'est aussi ça.
Faut s'y connaître.
La victoire est belle.
Je veux qu'on en sorte grandi et voilà, et plus cultivé, et tout surtout en apprenant. Je veux
et que sans OGM.
Des vacances apprenantes. Donc le décompte des points. Évidemment, on était grosso modo sur un truc à peu près égalité entre Marianne James, Barbara Carlotti et Olivier Cachin qui a surpassé tout le monde. De là, qu'est-ce qui se passe? Ben il se passe qu'on a beaucoup de peine pour Aymeric Lomprey, qui n'a marqué qu'un pauvre point, vraiment du bout du doigt.
Voilà, de quoi, sur une belle réponse, j'ai dit sur Julien Doré.
Mais c'est la raison pour laquelle, Aymeric, c'est toi.
Mais non.
C'est vous, Aymeric Lomprey, qui gagnait aujourd'hui la flûte à bec.
C'est truqué, on se lève et on se casse.
C'est bon.
On se lève et on se casse, nous dit Olivier Cachin. Bon, on va passer au magasin de flûte à bec.
Merci.
Il faut écrire un morceau avec Julien Doré. Ouais. Avec la flûte.
J'ai déjà écrit tout son album. Donc
on va la voir dans le prochain clip de Julien.
Hein. Ça avec ton pote Julien Doré. Merci Barbara Carlotti.
Il a fait une story.
Merci Thomas VDB.
Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes en tournée en Corse et tout à la rentrée. Vous êtes le 16 novembre à La Cigale à Paris, mais il y a aussi plein d'autres dates en province.
Tout à fait.
Enfin en France, partout. À partir du 7 octobre Montpellier, 14 octobre Montrouge. Marianne James, vous êtes fin décembre du 18 au 28 au théâtre de la Tour Eiffel.
Oui,
pour jouer les adieux de Tati Jambon.
Tati Ramon. Adios, Tati Ramon.
Aymeric Lomprey, vous êtes en spectacle avec Tant Pis.
Oui, à la rentrée à l'Européen.
À l'Européen, on sera nombreux à aller vous voir, croyez-moi. Et Olivier Cachin, merci d'être venu. Je rappelle que vous venez de sortir trois superbes compilations.
Bravo.
Qui s'appellent Soul Diggers, Funk Diggers et Hip Hop Diggers, disponibles chez Vagram, et c'est que des super sélections. Voilà, merci à tous d'être venus.
Merci Thomas.
Regardez, je vais retrouver mon papier. Vous aussi, évidemment, vous pouvez gagner une flûte à bec en jouant à notre grand jeu concours de l'été sur Twitter, hashtag flûte à bec. Pour gagner vous aussi une flûte à bec en reconnaissant le morceau de la semaine. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. Et comme chaque semaine, les questions ont été préparées par Sylvain Moser. Jean Rovarino a réalisé cette émission. Alexia Lacour et Mathias Volant sont nos attachés de production. Merci à eux. Djoubaka a choisi les titres de la playlist de France Inter. Et ben voilà. Merci à tous. À la semaine prochaine. Salut les amoureux de la flûte.